Calade.
Ma radio.
Parlons équilibre. Bonjour et bienvenue dans notre émission Parlons équilibre, une émission préparée par l'association Équilibre et moi, association d'accompagnement et soutien des personnes en surpoids et en situation d'obésité dans le Beaujolais. Ce soir, émission spéciale réalisée par les adhérents de l'association portant sur la grossophobie. Réalité existant depuis une éternité, exprimée depuis des années, mais ne faisant son entrée dans le dictionnaire qu'en 2019, la grossophobie est définie comme un nom signifiant « attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids ». Comme toutes les formes de rejet de la différence, racisme, homophobie et tant d'autres, elle est injuste et peut avoir de lourdes conséquences sur la santé physique et mentale des personnes qui en sont injustement victimes. Présente dans le milieu familial, professionnel, scolaire, médical ou tout simplement dans la vie quotidienne, du regard réprobateur à la phrase assassine ou au refus d'accès à une activité, la grossophobie est partout et atteint, consciemment ou pas, les personnes qui en sont victimes. Nous recevons aujourd'hui Héloïse et Pascal qui ont accepté de témoigner de leur expérience personnelle. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Alors, je me prénomme Pascal, j'ai 62 ans, je suis retraitée et mère de famille de deux grands-enfants. J'exerçais le métier d'assistante administrative avec orientation export.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Bonjour. Eh bien, moi, c'est Héloïse. J'ai 37 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, un garçon de 2 ans et une fille de 6 ans. Je suis entrepreneur depuis 6 mois. Et membre de l'association depuis un an pour faire de la prévention et de la sensibilisation sur la maladie de l'obésité et également sur la grossophobie et l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes de cette maladie.
Bon, bah alors, la personne idéale pour témoigner.
Presque.
Alors, ma première question, c'est sur vous. Depuis combien de temps êtes-vous malade de l'obésité, Pascal?
Alors, mes soucis sont apparus concomitamment à la prise de la nouvelle formule du lévothyrox, c'est-à-dire entre juin 2017 et juin 2018, où j'ai pris 20 kilos en un an.
Le lévothyrox, tu peux nous dire qu'est-ce que ça traite ?
Ça traite l'hypothyroïdie. D'accord. Et l'hyperthyroïdie.
D'accord, ok. Bon, donc c'est un déclenchement... médical, enfin, médicamenteux.
Oui, tout à fait.
Ok. Et Louise ?
Eh bien, moi, autre parcours. Obésité depuis ma plus tendre enfance. J'étais déjà déclarée obèse à l'âge de 3 ans. Et du coup, ça a été plutôt un parcours dans ma vie. Et j'ai récemment découvert quelques pistes de réflexion pour comprendre la maladie et surtout pour l'accepter. Mais moi, je vis l'obésité depuis 37 ans.
Ok. Depuis quand connaissez-vous le terme de grossophobie ?
La première fois que je l'ai entendu, c'est au sein de l'association Équilibre et moi, lors d'une marche dans le cadre de la Journée mondiale de l'obésité. C'était en début mars 2020 et je m'étais rapprochée de l'association au printemps 2019 précédent.
Ok. Ah oui, donc très récent. C'est tout rentré dans le dictionnaire en 2019 et ok. Et toi, Héloïse ?
Bah moi, je dirais que j'ai commencé à entendre le terme grossophobie quand il a commencé à être un peu démocratisé. Parce que pendant longtemps, ça me paraissait en fait normal de recevoir des critiques, des insultes, parce que je ne me considérais pas comme tout le monde, pas normal. Et c'est donc après, quand ça s'est démocratisé, que j'ai compris voilà, qu'il existait un terme pour ça.
Voilà. Ok. Et quand vous en avez été victime la première fois ?
Alors, c'est dans le milieu médical. Donc, quand j'ai été voir un endocrinologue par rapport à mes problèmes de thyroïde et de poids, qui étaient associés pour moi, puisque je n'avais jamais eu de soucis de ce côté-là avant. Et malgré tout, bien que j'ai expliqué que c'était depuis cette prise de médicaments, on m'a dit qu'on allait m'hospitaliser 2 jours pour des examens. Quand j'ai demandé pourquoi, c'était pour voir si j'avais le foie gras. Donc, je ne me suis jamais rendue à cette invitation. Et lorsque j'ai eu l'occasion de faire plus tard une échographie abdominale pour des soucis de gastrite au niveau de l'estomac, il est apparu que mon foie n'avait rien de particulier. Il était tout à fait normal.
Et du coup, tu disais, ça date de quand ? Il y a combien d'années à peu près ?
Disons qu'on m'avait diagnostiqué une maladie auto-immune de la thyroïde en juin 2018.
D'accord.
Et donc après, quand j'ai fait l'échographie, c'était 3 ans après. Parce que du coup, j'ai mis en stand-by, puis il y a eu le Covid en plus.
Oui, donc c'est quand même assez récent.
Oui.
Ok, merci. Et pour toi, Louise ?
Moi, je pense que j'ai d'abord été victime de grossophobie dans le cercle familial. Ça a commencé très jeune, mais voilà, c'était plutôt dans le cercle familial, bien avant l'école, la rue, enfin, tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui. C'était par des petites phrases, tu peux pas t'habiller comme ça, t'es trop grosse, arrête de manger du chocolat, t'es trop grosse, enfin voilà.
D'accord. Bon, donc pareil, vous avez un parcours bien différent et c'est très bien pour faire partager votre expérience. Est-ce que vous êtes confronté quotidiennement à cette méchanceté gratuite ou de façon ponctuelle dans un cadre précis ? Donc, Pascal, a priori, c'est quand même plutôt dans le milieu médical.
Complètement. Chaque fois que je consulte, puisque mon problème de poids, je veux dire, j'ai une petite morphologie au niveau osseux, donc j'en souffre au niveau des articulations. Donc chaque fois que je consulte un spécialiste d'une chose ou de l'autre, ce qui revient immanquablement, perdez du poids. Même si j'ai un problème aux bronches, perdez du poids. Alors, je me doute bien que la perte de poids peut qu'arranger l'ensemble de mon organisme, mais ce n'est pas la cause de mes problèmes de bronchite ou de choses comme ça.
Oui, tout est ramené, tout est ramené au poids.
Voilà, ils ne cherchent pas une solution. Pourtant, c'est récent, ma prise de poids, donc c'est assez facile à identifier d'où ça peut venir. Vous êtes trop grosse, perdez du poids, terminé. Voilà, on ne cherche pas plus loin.
Ok. Et pour toi, Héloïse ?
Moi, je suis un peu dans le même cas aussi, mais je dirais que ça s'ouvre un peu plus largement. Après, je ne peux pas dire être confrontée à ça tous les jours. Ça serait vraiment exagéré, parce que c'est vrai qu'on est confrontés tous les jours un peu à des regards bizarres, un peu ambigus, on nous toise, mais à la rigueur, j'y fais absolument pas attention, ou en tout cas pas cas. Mais c'est vrai que fréquemment, oui. Alors, dans le milieu médical, bien sûr, on va voir un médecin, on a une toux, et puis on nous dit « montez sur la balance qu'est-ce que ma toux ? Est-ce que ma toux a grossi, peut-être ? Je ne sais pas. Dans le milieu familial, mais ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est presque le contexte le plus difficile. C'est-à-dire que parfois, on fait des réflexions en se disant « c'est pour son bien », alors qu'en fait, ça ne fait pas de bien du tout. Mais bon, ça reste un contexte hostile pour les personnes malades de l'obésité. Le milieu professionnel, si vous saviez le nombre de fois où j'étais embauchée au téléphone et quand on m'a vu, on m'a dit « non, finalement, vous ne correspondez pas aux critères de sélection de notre annonce ». Ah, bon, merci, au revoir. Voilà. On a aussi après, évidemment, au restaurant, quand on est obligé de déplacer une table pour pouvoir rentrer le popotin, ou quand on est obligé de demander « pardon, s'il vous plaît, je voudrais passer ». Voilà, les supermarchés pendant les courses, les magasins de vêtements. Vous savez, quand on veut faire un cadeau à une copine, qu'on va dans un magasin de vêtements taille normale et qu'on nous regarde et qu'on nous dit « vous savez, on s'arrête au 46 ici ». Oui, je sais, merci, c'est pas pour moi. Enfin, voilà, c'est un peu comme ça, c'est récurrent, c'est très souvent. Et puis, la petite anecdote dont je voulais vous faire part, parce que c'est très récent et du coup, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai accompagné une amie qui faisait le 13 km au marathon du Beaujolais. Et je me suis mise dans la file d'attente du 13 km parce qu'elle prenait d'autres dossards. Et là, j'ai été confrontée au regard bienveillant, non, c'est une blague, de tous ces coureurs qui me regardaient des pieds à la tête et qui se disaient « Quoi ? Mais elle court celle-là, mais comment elle va faire ?» Donc, du coup, quand on est allé chercher le dossard, je l'ai gardé en faisant croire que c'était le mien, juste par fierté, genre oui, je vais les faire les 13 km. Bon, j'avoue que non, pas du tout. Elle a très bien couru, moi pas. Mais en tout cas, c'était vraiment dérangeant en fait et désagréable. Et c'était vraiment pas des bonnes intentions, c'était pas des regards du genre waouh, elle a la force de pouvoir le faire. On sentait que c'était des regards noirs, du genre mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, quoi. Voilà.
Bon, merci pour ce témoignage. Alors, je vais vous lire. Un témoignage qui a été récolté lors d'une demande auprès de l'association pour parler de grossophobie, qui est sur un flyer de l'association qui parle de ça. et qui est sur le milieu médical. Donc, on a une jeune femme qui, de 38 ans qui nous dit que la première fois chez un ostéopathe, après m'avoir manipulée, il me dit « Je ne veux plus vous revoir dans mon cabinet tant que vous n'aurez pas perdu de poids. » Restant bouche bée, il ajoute « Ben oui, il ne faut pas s'étonner d'avoir des problèmes de dos quand on est grosse comme vous. Même en étant plus mince, j'avais déjà des problèmes de dos. C'était il y a 10 ans. Je ne suis plus jamais retournée chez un ostéopathe depuis. » Voilà. Du coup, comment vous réagissez? Parce que là, elle dit qu'elle est restée bouche bée quand c'est arrivé. Et vous, ça se passe comment? Comment vous arrivez à réagir?
Ça m'est déjà arrivé de rester sidérée quand un endocrinologue dans un grand hôpital lyonnais, je lui ai amené mon dossier, il a tout dispersé dans tous les sens sur la table. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Déjà, bon, ben...
Votre travail.
Voilà. Et puis ensuite, question qui m'a... Je me suis demandé d'où sortait cette question. Quel poids faisiez-vous à 20 ans? Bon, j'en avais près de 60. À mon époque, à 20 ans, il n'y avait pas de pèse-personne chez les particuliers. Donc, et puis, dans ma famille, il n'y avait pas de problème de poids. Et en plus, j'ai perdu ma mère à ce moment-là. Donc, j'avais d'autres chats à fouetter qu'à regarder ma garde-robe ou autre chose. Donc, voilà. Donc, je n'ai jamais pu lui répondre, en fait.
Sidération.
Voilà.
Et avec du... et un peu plus tard, t'as réussi, dans d'autres circonstances, à répondre un peu, à te défendre ou
Non, chaque fois, non. Je suis sidérée, ouais. En me demandant comment ça se fait qu'on me réponde systématiquement ça.
On te ramène à ça.
Systématiquement, que mes problèmes de santé, tout vient de mon poids. Alors que je pense que... Non, c'est le contraire. Mon poids découle de problèmes de santé.
C'est ça. Ok, c'est pas si simple que ça. Oui, c'est exactement ça. Et toi, Héloïse, comment tu réagis?
Bah, je dirais que dans le milieu familial, le milieu festif, amical, la rue, les magasins, je suis assez indifférente. Mais je reste quand même assez agacée du milieu médical qui est soi-disant un milieu bienveillant. Et c'est là où j'ai vraiment entendu les pires horreurs. Et vraiment, je reste, je restais. Pareil, bouche bée à me dire, mais comment on est capable de sortir ce genre de choses à une personne
malade,
fragile, parce que généralement, quand on consulte, on n'y va pas pour rien. Donc oui, et sauf la dernière fois, j'étais dans une pharmacie et il y avait deux dames d'un certain âge derrière moi. J'étais avec ma fille, on regardait des petits sticks à lèvres. Et il y a une des deux dames qui regarde sa copine et qui lui dit « La dame devant toi, tu crois qu'elle est grosse ou qu'elle est enceinte ?» Alors du coup, je me suis retournée et je lui ai dit « Non, madame, je suis obèse et je vous demanderai d'être un peu plus discrète la prochaine fois. » Et donc là, elle m'a regardée et me dit « Ah, mais elle est belle, votre fille !» Rien à voir, voilà. Donc j'ai trouvé ça agaçant, voilà. Maintenant, je réponds.
Oui.
Parce que je pense que stop, on n'a pas à subir ce genre de choses et qu'on a le droit de vivre et d'être là, quoi, voilà.
C'est ça. On a de la place pour tout le monde et on n'est pas obligé d'être tous sur le même modèle.
Exactement. Sinon, on s'ennuierait.
C'est ça, exactement. quand vous subissez cette grossophobie, est-ce que vous avez la possibilité d'en parler autour de vous? Est-ce que vous avez des gens à qui vous pouvez confier ces événements?
J'en parle à mon époux,
oui.
Mais lui-même, il me dit « Tu bouges pas assez, c'est parce que tu fais pas assez de choses que tu es grosse. » Évidemment, mais si je suis fatiguée chroniquement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui va pas. Voilà.
Donc tu peux quand même en parler, mais du coup, il n'y a pas vraiment le réconfort qui va bien.
Non, parce que la personne s'interroge, elle ne comprend pas non plus mm-hmm. pourquoi j'ai pris du poids comme ça. Mm-hmm. Voilà. Et que malgré toutes les consultations médicales, on n'arrive pas à trouver. Les médecins ne cherchent pas, en fait.
Oui.
On me dit que c'est multifactoriel, comme ça. Voilà. La réponse est faite.
Et les enfants, non?
Les enfants, non. Non, puis ma sœur qui me connaît bien, qui a un an d'écart avec moi, elle dit, je sais bien que c'est pas parce que tu as mangé trop de chocolat que tu as grossi. Donc...
Et toi, Héloïse, tu as la possibilité d'en parler autour de toi?
Moi, j'ai un mari qui est très bienveillant, donc j'en parle très librement avec lui. J'ai un cercle d'amis aussi et une sœur, pour ça, formidable également, avec qui je peux parler librement de tout ça. Donc oui, je peux évacuer ce genre de choses, oui. Voilà, donc je pense que je suis bien entourée pour en effet pouvoir sortir toutes les absurdités que je peux entendre. Et puis après, on en parle à l'association aussi. On a beaucoup de temps de parole pour pouvoir développer de ce genre de sujet.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est des moments où on peut partager, échanger. Et c'est... alors, on ne peut pas dire que ce soit bien, parce que ce n'est pas bien qu'on soit tous logés à la même enseigne et qu'on le subisse tous. Mais on n'est pas tout seul. Ouais, ouais. Et on se rend compte aussi que, des fois, on est sidéré, comme tu disais. Et parce que souvent, avec le recul, on se dit « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça » et tout. Mais la sidération, c'est dans plein de domaines. Et là, typiquement, ça peut... Voilà, on reste bouche bée. Et puis après, avec l'âge, on peut des fois arriver à pouvoir répondre. Mmh. En fonction du caractère aussi. Mais oui, je trouve que c'est très enrichissant d'avoir des gens qui, du coup, ont vécu la même chose que vous. Et on se dit, ah ouais, donc en fait, c'est pas moi.
Je me sens moins seule.
C'est pas moi.
Ça vient pas de moi, c'est bien quelque chose qui se passe ailleurs et qui concerne tout le monde.
Exactement. Ouais. Exactement. Petite pause musicale avec George Michael, Az.
Rosebuds know to bloom in early May. This is hate knows love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always.
Until the rainbow burns the stars out of the sky.
Always.
Until the ocean of atlantic
mountains high. It's gonna be always.
Until the day that it's our day, times it is
more. It's gonna be always.
Until the day that is the day that I'm no more.
Did you know that true love lasts for nothing? Her acceptance is the way we pay. Another day.
As today I know I'm living for tomorrow. Could make me the past, but that I mustn't fear. Cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
Stop it.
Nous venons d'écouter George Michael, As. Dans Parlons équilibre, revenons à notre sujet sur la grossophobie. Alors, la prochaine question, ça concerne, après tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que du coup, vous avez renoncé à des sorties, des soins, des activités à cause de cette grossophobie que vous avez subie ?
Personnellement, non. C'est plutôt à cause du manque de mobilité induit par le surpoids. Mais je vais au maximum quand même, même si je le paye au point de vue articulaire quelques jours après. Et je fais autant de marches et de randonnées que je peux. Mais je ne perds pas un gramme néanmoins. Donc, j'ai jamais autant fait de sport qu'en ce moment. Et j'ai jamais été aussi forte qu'en ce moment. Donc, cherchez l'erreur.
Et tu n'as jamais renoncé à aller chez le médecin, même si
non,
systématiquement,
non,
quasiment,
non.
Tu es... D'accord.
Bon, simplement, je suis très déçue chaque fois de la conclusion.
Ouais. Voilà. Ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ne se traitent plus, ne vont plus chez le médecin ou chez certains médecins parce qu'ils ont été maltraités et que ça leur est insupportable. Donc... ça peut vraiment avoir des conséquences graves. Et toi, Héloïse ?
Moi, je dirais que je renonce généralement à rien non plus, c'est-à-dire que piscine, spa, esthéticienne, voilà, ce sont des endroits où je vais sans avoir peur d'y aller. Ce qui m'empêche de faire des activités parfois, c'est justement la limite de poids. Ouais. Moi, mon rêve, ce serait de faire un baptême en parapente ou un baptême en hélico. Bon, on est d'accord, il va falloir attendre un petit peu, mais ça fait partie de la liste de mes envies prochainement, on va dire. Voilà. Mais voilà, ça reste juste la limite de poids.
Ok. Alors, un petit chiffre avant de passer aux deux dernières questions. Il y a une personne sur quatre souffrant d'obésité qui déclare avoir été victime de grossophobie dans sa vie. C'est pas rien.
Non, c'est énorme.
Et nous, comme on disait dans l'association, quand on échange, on a l'impression que c'est vraiment très, très
récurrent.
Répandu et récurrent. Alors du coup, maintenant, pourquoi est-ce que vous avez accepté de témoigner aujourd'hui ?
Pour que les personnes soient averties de ce qu'on peut leur envoyer comme réponse complètement hors sol par rapport à la consultation auquel elles se rendent, et qu'elles soient moins désarçonnées et qu'éventuellement elles aient des arguments pour... Mais je crois que les arguments ne font rien. Les personnes en face n'écoutent pas. De toute façon, sont fortes de leur conviction que tout vient, c'est un mal... la personne qui est forte est responsable de son surpoids et donc elle est coupable, elle n'a pas fait les choses correctement, elle ne compte pas chaque petit poids de son assiette, donc c'est bien fait. Enfin, si elle a des conséquences, faut pas qu'elle cherche pourquoi. Et j'ai même été très choquée d'entendre dans une émission connue le matin médicale qui dure un quart d'heure, une médecin dire en rigolant: mais vous avez jamais vu des personnes avec du gras dans une salle de sport ?
Bien sûr que si.
Les personnes en surpoids ne vont pas dans les salles de sport.
Quelle idée.
Alors qu'on nous dit justement d'en faire. Alors, c'est tout incohérent pour moi.
Tu avais d'autres exemples, je crois, de choses qui t'étaient arrivées, dis-moi.
Donc, toujours dans le même hôpital, où là, j'avais décidé de faire un bilan général pour voir ce qui clochait chez moi. Pour que je me retrouve dans cette situation d'obésité en si peu de temps. Donc, un jeune pneumologue m'a dit que mon manque de souffle venait d'un déconditionnement au sport. Quand je lui ai demandé une explication, il m'a dit: mais il faut faire du vélo à fond, madame. La personne, le grand jeune homme, n'avait pas la trentaine. Moi, j'en avais le double. Et donc, il me disait: mais il faut faire du vélo à fond jusqu'à ne plus avoir de souffle. Or, après le Covid, suite à des problèmes pulmonaires qui persistaient, un scanner a révélé, comme je faisais pour la première fois de ma vie d'ailleurs, qu'en fait j'avais une insuffisance dans deux zones des bronches depuis très longtemps, suite sans doute à une pneumopathie pas soignée. Donc rien à voir avec un manque de sport. Et dans cet hôpital, j'ai fini en beauté avec une cardiologue, qui était pressée d'aller voir son avocat. Bon, elle avait des soucis, la pauvre dame, mais j'y peux rien. J'y pouvais rien. Moi, j'étais compatissante. Mais de son côté, j'ai pas eu la moindre once d'humanité plus que pour l'examen d'échographie cardiaque, elle manipulait très, on va dire, avec peu de douceur et peu de, sans respect au niveau de ma poitrine, on va dire, en me demandant pourquoi j'avais des seins aussi gros, parce que ça la retardait pour faire l'échographie.
Voilà.
Voilà. Allô, dame nature, pourquoi mes seins sont si gros, s'il vous plaît ?
La sidération est là, donc c'est...
C'est... On en reste assis par terre.
Enfin, ah oui, ben, oui.
On tombe de la chaise.
C'est ça. Et pour toi, Héloïse ?
Ben, moi, c'est vrai qu'avant tout, je voulais prendre la parole aujourd'hui et témoigner parce que je pense que déjà, j'en ai besoin. Depuis la naissance de mon fils, j'ai fait une dépression postpartum qui est en partie liée à la maltraitance que j'ai subie pendant le suivi de grossesse de ma fille en 2017. Et du coup, j'ai fait une dépression pré- et postpartum, du coup, donc pendant et après. Et tout ça a été en partie lié à toutes les insultes et à tous les mauvais traitements que j'avais subis des différents médecins et différentes sages-femmes que j'avais pu rencontrer. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps de dire stop, mais que ce soit dans n'importe quel milieu. Aujourd'hui, on est là, on parle aussi du milieu médical parce que c'est une évidence pour nous. On doit être dans un secteur normalement bienveillant et c'est pas le cas. Mais stop, stop de partout, stop dans la rue, stop dans la famille. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience que l'obésité est une maladie. Il faut qu'on le dise ouvertement et il faut dire stop à la grossophobie et aux préjugés. Voilà, c'est pas parce qu'on est obèse, qu'on boit du coca et qu'on mange des hamburgers toute notre journée, quoi. Stop. Voilà. Donc, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup subi aussi. J'ai eu un anesthésiste hein, qui m'a quand même dit, donc j'étais à 8 mois de grossesse, qui m'a quand même dit que j'aurais mieux fait de partir 2 ans aux Philippines faire de l'humanitaire, choper la tourista, comme ça j'aurais perdu du poids et quand je serais rentrée j'aurais pu faire un enfant tranquille. Et en me disant au revoir, donc me serre la main et me dit au fait j'espère que vous prenez des anticoagulants parce que vu votre poids, après l'accouchement vous allez faire une embolie pulmonaire. Voilà, donc s'en est suivi derrière ça 6 mois de stress, de la peur de mourir. J'ai dû faire de l'hypnothérapie pour me remettre de ces belles paroles de tous ces médecins bienveillants. Et voilà, aujourd'hui, stop. S'il vous plaît, arrêtez ça.
Merci Pascal, merci Héloïse. Parlons équilibre touche à sa fin. Le meilleur moyen de lutter contre la grossophobie, c'est la bienveillance et le respect. Alors à vous de jouer. À très bientôt sur Radio Calade 100.9.
Calade. Ma radio.
Parlons équilibre.